Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro pour cette édition d'Escale, dans laquelle nous marquons la Journée internationale des casques bleus de l'ONU. Cette journée, célébrée chaque 29 mai, permet de rendre hommage au personnel civil, policier et militaire dans les missions de paix pour sa contribution inestimable au travail de l'organisation. L'édition 2021 de la journée cherche à mobiliser le pouvoir de la jeunesse en faveur de la paix et de la sécurité durable. Pour la marquer, nous avons ainsi joint à Bangui, en République centrafricaine, Merveille Noëlla Mada Yayoro. Cette casque bleue civile est une jeune centrafricaine âgée de 29 ans. Elle travaille en tant que reporter et animatrice à Guira FM, la radio de paix au sein de la mission de l'ONU dans son pays. On lui donne la parole.
Je m'appelle Mada Yayoro Lervainuela et je suis journaliste productrice à Radio Guira FM. Je suis de nationalité centrafricaine. Avec la crise qu'a connue la République centrafricaine, tous, on a cette idée de contribuer au retour définitif de la paix en Centrafrique, d'où cette volonté de travailler pour cette mission, étant donné que c'est une mission qui travaille pour la paix, qui contribue au retour de la paix et la stabilité en République centrafricaine. Alors, si je travaille pour cette mission, c'est également pour donner ma part de contribution dans le retour de la paix en République centrafricaine.
Est-ce que vous sentez que vous avez un impact, justement, avec votre travail?
Impact positif, oui, parce que quand on travaille, c'est pour donner quelque chose de plus. J'ai un impact parce que dans mon secteur, je contribue. Parce que quand il y a quelque chose, c'est beaucoup vers moi que mon entourage me demande « Est-ce que tu as telle information? Est-ce que tu peux nous orienter? Est-ce que cette information, elle est vraie ou elle est fausse ?» Et si tout le monde vient vers toi dans ton secteur pour te demander des informations, des orientations, ce qui veut dire que ton travail, ce que tu fais, ça a des impacts quelque part. Donc moi, je prends dans ce sens, non seulement dans mon secteur, là où j'habite, mais également dans ma vie religieuse. Parce que des fois, il arrive le temps où on échange avec les frères de l'Église. Donc, ceux-là aussi, s'il y a des choses qui arrivent, de temps en temps, nous appellent pour nous demander « Est-ce que tu peux nous donner une information fiable sur ce qui se passe ?» Donc, moi, je pense que mon travail, quelque part, ça contribue et ça a un impact sur ceux qui sont autour de moi.
Vous mentionnez vos frères au sein de l'Église. Le conflit en République centrafricaine a souvent une note communautaire, voire religieuse. Est-ce que, justement, vous arrivez, en échangeant, à élargir, à créer plus d'entente?
Oui, parce que dans mon Église, je travaille avec les enfants. On a une association qui regroupe un peu les jeunes de l'Église, dont on a des thématiques. Qu'on discute chaque week-end, on se retrouve lors des répétitions et on partage des idées. Et aussi, on oriente nos débats beaucoup plus sur la paix, la cohésion. Parce que, comme vous venez de le dire, la crise centrafricaine, ça pris beaucoup un angle religieux, disons chrétien-musulman. Et dans notre Église, nous faisons toujours de notre mieux de sensibiliser les jeunes à comprendre qu'il n'y a jamais eu de crise entre chrétiens et musulmans, que nous sommes tous d'un seul pays et que nous sommes appelés à travailler ensemble. Et nous organisons aussi des séances de sensibilisation, bien des rencontres, des sorties pour parler de cela. Mais on ne sait pas, dans d'autres secteurs, c'est un peu difficile. Mais avec le temps, les gens ont compris l'importance de cette crise et ils ne se sont pas mis plus sur cet angle religieux. Ils ont compris que voilà, la crise, ce n'est pas entre les frères chrétiens, mais c'est un angle politique.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ?
Ce qui me plaît beaucoup plus dans mon travail, c'est le fait de communiquer, informer la population, être trop proche de la population. Quand tu es à l'antenne, quand tu es devant le micro, c'est que tu parles à plusieurs personnes à la fois. Et là, ça me plaît beaucoup. Et aussi, ce qui me plaît beaucoup plus, c'est quand je me trouve sur le terrain. Le terrain, je veux parler des missions à l'intérieur du pays, quand je pars pour des reportages. Parce que là-bas, tu sens que tu touches du bout de doigt les réalités. Hein, comment est-ce que les gens vivent à l'intérieur du pays? Comment est-ce que les gens sont en train de se battre pour vivre au quotidien? Donc, tu t'imagines la vie à l'intérieur du pays, à la capitale. Donc, le terrain me plaît beaucoup plus que mon travail. Le terrain, le micro quand je suis en train d'allumer, et voilà.
Vous dites que vous vous sentez proche de la population et que vous apprenez en allant sur le terrain un peu les réalités à comparer avec la capitale. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Qu'est-ce qui vous fait ressentir cette proximité? Pouvez-vous nous la décrire un peu?
Quand tu es sur le terrain, tu sens que tu as toutes les informations possibles, d'autant plus que tu es plus proche de la population et tu sens que les gens viennent vers toi pour t'expliquer, pour te montrer leur quotidien, pour te dire que voilà, regarde, c'est ce qu'on vit ici. Est-ce que tu peux pas faire quelque chose pour nous? Ah, il faut prendre ces éléments, arriver à Bangui, il faut diffuser, il faut que tout le monde entende, il faut que tout le monde écoute et tout le monde ait une idée sur ce que nous vivons à l'intérieur du pays. Alors, moi, je vois quand tu es sur le terrain, c'est là où tu comprends vraiment les réalités et des choses. Parce que, des fois, on t'appelle pour te dire que voilà, il y a telle chose qui s'est produite dans tel village. Par le téléphone, tu n'as pas toutes les informations possibles. Oui, tu vas essayer de dire que voilà, dans tel village, telle chose est arrivée. Mais quand tu descends sur le terrain et que tu vois de tes propres yeux, tu sais comment décrire ce que tu as vu et comment l'expliquer à ta propre manière. Mais quand on t'appelle pour te dire, ça peut être une vérité, ça peut être un mensonge, ça peut être une incitation à la haine, toi, tu ne sais pas. Mais tu penses que c'est la vérité, c'est la réalité qu'on te dit. Mais quand tu es sur le terrain, c'est à toi maintenant de comprendre que voilà, ce que telle personne est en train de dire, c'est du mensonge. Parce que toi, tu as vu et tu as touché. Donc voilà la différence entre être sur le terrain et rester hein, à la capitale, recevoir les informations. Mais c'est toute une autre réalité parce que ici à Bangui, les gens n'ont pas une idée sur ce que se passe à l'intérieur du pays. Par contre, les gens qui sont à Bangui, ils pensent que voilà, il y a la paix, il y a la sécurité, ils sont là, ils sont tranquilles parce qu'ils mangent, ils boivent, ils se promènent. Mais quand tu arrives à l'intérieur du pays, il y a la crise, les gens sont dans la brousse, les gens n'ont pas vraiment cette liberté de s'exprimer, de vaquer librement à leurs occupations, d'aller là où ils veulent. Donc, vous voyez, c'est cette différence.
Est-ce que vous apportez quelque chose de particulier en étant jeune et femme?
Oui, ça apporte quelque chose de particulier parce que je vais donner un exemple. Quand j'étais affectée à un moment donné à Kagabandoro, étant jeune, c'est une zone où les femmes ne veulent pas aller. Mais j'étais sur ce terrain et puis on n'était pas nombreux. Mais je vous assure, quand je pars sur le terrain, les gens sont toujours prêts à te donner les informations. Ils disent, regarde Marguerite, hein, elle est petite, Marguerite. Toute sa famille à Bangui, elle a accepté de venir travailler avec nous. Les gens te donnent des informations. Les gens cherchent à te contacter. Les gens cherchent à être tout proche de toi. Les gens cherchent des fois à t'orienter. Des fois, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils t'appellent pour te dire, regarde, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que tu peux nous aider dans ce sens? Ou bien, viens, on va t'orienter, on va te montrer les choses si tu ne comprends pas cette partie ou bien tu ne comprends pas bien la localité. Les gens ont ce souci de t'aider, de te mettre sur la bonne voie parce qu'ils savent que voilà, tu es en train de faire quelque chose de bon, étant jeune, mais tu n'as pas vu cela et tu as accepté d'être à l'intérieur du pays. Vous voyez, donc être jeune, oui, mais ça aide aussi quand tu es sur le terrain. Les gens cherchent toujours à voir quelque chose de toi et à t'orienter, à te mettre sur une bonne voie.
Est-ce que ça permet aussi de connecter avec les jeunes sur le terrain? La Centrafrique a une population qui est très jeune.
Ouais, ça permet aussi d'être en contact direct avec les jeunes parce que, étant jeune, les jeunes sont toujours tout proches de toi. Ils savent que s'ils viennent vers toi, vous avez les mêmes langages et vous pouvez communiquer facilement. Donc, ça permet aussi ce contact avec la jeunesse à l'intérieur du pays. Quand tu arrives, ils sont là tout proche de toi. Et puis, vous savez, c'est vers les jeunes que tu peux avoir toutes les informations. Alors, si on est jeune et qu'on est tout proche de ces jeunes, on a les informations qu'on cherche tous les jours.
Ça permet d'avoir une autre information aussi.
Oui, ça permet d'avoir une autre information aussi. Des fois, il y a des choses que quand tu es avec les grands, tu n'entends pas. Mais quand tu es avec les jeunes, dans des causeries, dans des débats, et puis voilà, ils te lancent des sujets. Voilà.
Vous avez mentionné que quand vous êtes en reportage et quand vous êtes sur le terrain, on vous demande souvent d'une part de passer des informations, mais aussi de l'aide. Est-ce que c'est frustrant en fait? Est-ce que vous sentez que vous pouvez venir en aide?
Des fois, c'est frustrant parce que, en voyant cette population, tu es dans l'incapacité de leur fournir ton aide parce que toi, c'est juste communiquer, mais les gens viennent vers toi, te dire que voilà, on a besoin de toi, on a besoin que tu nous viennes en aide, on a besoin que tu puisses nous soutenir. Et tu te vois incapable de résoudre ce problème parce que ton problème, c'est autre chose. Mais moi, ce que souvent je fais sur le terrain, je leur dis que voilà, moi, présentement là, je peux rien pour vous, mais ce que je peux, c'est votre voix que je suis en train de prendre. C'est ça que je vais utiliser pour lancer un appel à ceux qui nous écoutent, à ceux qui travaillent dans tel domaine. C'est maintenant à eux de vous venir en aide. Mais moi, le travail vraiment, c'est juste communiquer. Alors, je veux communiquer sur votre position, sur votre situation, sur ce que vous êtes en train de vivre. Et voilà, le reste, ça va venir après. Mais une deux fois, ça frustre, ça fait mal au cœur, mais tu ne peux rien parce que toi-même, tu ne peux pas apporter la solution à tout ton village.
Vous avez mentionné que vous aviez été affectée à Kagabandoro et que il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient affectées. Est-ce que vous sentez que votre expérience là-bas, votre présence là-bas, a laissé des traces, peut-être des opportunités pour les femmes qui s'y trouvaient?
Oui, je pense, parce que quand j'étais à Kagabandoro, les femmes, en fait, du côté de Centrafrique, on n'était que quatre. On n'était que quatre femmes, mais beaucoup plus. Les trois autres travaillaient au bureau. J'étais là sur l'atelier, sur le terrain, les axes. Quand il y a un incident, on doit aller sur le terrain parce qu'on doit vérifier les faits, avoir toutes les informations possibles avant de les diffuser. Et quand tu pars sur le terrain et que tu croises des femmes, en fait, elles ont cette envie de faire comme toi. Mais c'est un peu difficile parce que, vous savez, pour certains domaines, il faut étudier, il faut avoir un peu de connaissances. Mais dans certaines localités, il n'y a pas d'école. Les femmes sont là, ce ne sont que des mères au foyer. Et ça, c'est tout un tas de problèmes. Mais arrivé un moment avec des sensibilisations, avec des émissions que nous avons eu à faire quand on était à Kagabandoro, parce qu'on avait un décrochage local, l'antenne nationale donne une heure par jour pour communiquer localement avec la population. Et on profitait de notre tranche d'heure-là pour parler sur plusieurs thématiques, beaucoup plus la jeunesse, pour sensibiliser les jeunes sur la non-violence, la protection des biens publics. Et on a aussi les tranches où on sensibilisait aussi beaucoup plus les femmes parce qu'on s'est rendu compte que dans ces zones, c'est beaucoup plus les garçons qui sont appelés à aller à l'école, mais les filles, vraiment, elles sont à la maison. Et on a commencé à faire des séances de sensibilisation avec les autorités locales. On a vu que les choses ont changé. Si aujourd'hui vous allez à Kagabandoro, vous allez voir que même il y a des femmes qui n'ont rien à faire, mais elles ont cherché à faire quelque chose, la couture, la coiffure. Et tu sens que les femmes commencent vraiment à contribuer. Quand tu pars sur un chantier, tu vas voir les hommes, mais tu vas avoir également les femmes qui sont là parmi les hommes en train de travailler. Elles ont compris finalement que le travail, ce n'est pas seulement les hommes, mais les femmes aussi peuvent faire quelque chose.
Vous dites, nous tous, nous voulons la paix. Quelles sont les images qui vous viennent en tête quand vous y pensez?
Les images qui me viennent en tête quand je parle de la paix, que nous tous voulons la paix, c'est quand j'étais à Birao pour une mission. Et on était parti sur le site des déplacés. Quand j'étais en train de réaliser une interview, il y a un enfant qui venait vers moi, toute nue. Et l'enfant voulait seulement partir avec moi, un enfant d'un an et demi. Donc j'ai pris l'enfant entre mes mains et puis j'ai réalisé l'interview avec sa maman. Alors je me suis dit, s'il y avait la paix, cet enfant ne pouvait pas se retrouver sur le site des déplacés. Il serait avec sa famille dans leur maison, en train de vivre la paix, peut-être qui sait, sur Bangui, avec toute sa famille. Alors, moi, quand je pense à la paix, je pense à tous ces enfants qui sont sur les sites des déplacés et qui veulent retourner chez eux, mais avec la situation, avec cette situation insécuritaire, ils sont obligés de vivre sur le site des déplacés. Donc, quand je parle de la paix, je pense à ces enfants. Je me suis dit, un jour, il faut que la paix revienne pour que ces enfants retrouvent leur place.
Vous venez de parler des enfants dans les sites de déplacés qui pourraient retourner chez eux. Mais quelle est la chose qui, pour vous, représenterait d'un côté la fin de la guerre et de l'autre, le retour à la paix?
La cohésion. Si tous les Centrafricains arrivent avoir cette idée que nous sommes tous d'un seul pays et que de vivre ensemble pour reconstruire ce pays, je pense que nous aurons la paix en bon bientôt. Si vraiment tous les Centrafricains comprennent que la Centrafrique, c'est pour nous tous, que tu sois chrétien, musulman, on est tous enfants de ce pays et qu'on travaille tous pour un même objectif, le développement de ce pays, la paix va revenir bientôt.
Et c'est avec ces mots d'espoir de Merveille Noëlla Amada Yayoro que se referme cette édition d'Escale. Merci de votre fidélité. On se retrouve bientôt.